Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De prime abord, la parabole que nous venons d'entendre est déconcertante. N'est-elle pas un éloge de la malhonnêteté? Cette histoire d'escroquerie, de reconnaissance de dettes trafiquées, n'est-elle pas étonnante et même choquante dans la bouche du Fils de Dieu, étant donné qu'il la propose en modèle au Fils de Lumière? Évidemment non. Notre Seigneur ne peut pas avoir encouragé la malhonnêteté. Ça serait même un blasphème de le penser. Et donc, dans ce cas, comme dans tous les cas analogues, il faut appliquer la règle que l'Église nous donne. Lorsqu'un passage de la Sainte Écriture est obscur, il faut toujours l'interpréter à la lumière des passages qui sont clairs. Or, en de multiples endroits, l'Évangile condamne le vol et fait l'éloge de l'honnêteté. C'est même l'un des 10 commandements de Dieu. Tu ne voleras pas. Donc, quoi qu'il en soit des apparences, notre Seigneur ne peut encourager la ruse et la malhonnêteté. Et c'est absolument pas le sens de cette parabole. C'est clair. Alors, quel est le sens? Que notre Seigneur nous propose-t-il en modèle dans cette parabole? Eh bien, il faut répondre que c'est la prévoyance, l'habileté dans l'action, ou plus exactement, ce qu'on appelle la prudence. Et la prudence est tellement importante qu'il était tout à fait normal, convenable, que notre Seigneur lui consacra une parabole, au moins. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres paraboles qui disent la même chose, au fond. Alors, comment notre Seigneur s'y prend-il? Eh bien, il le fait à partir d'un exemple. Une parabole, c'est une comparaison prolongée, qui s'appuie donc sur une petite scène fictive, tirée de la vie quotidienne, un exemple, en vue d'en tirer une application, c'est-à-dire une leçon spirituelle ou morale. Mais ici, et c'est ça qui fait la difficulté, c'est que l'exemple est un argument a contrario. C'est en quelque sorte un contre-exemple. C'est l'exemple de l'habileté et du zèle d'un homme malhonnête, d'un méchant, qui cherche à se tirer d'affaire et qui réussit fort bien. Et cet exemple est proposé aux bons, aux chrétiens, non pas pour les encourager à être malhonnêtes, mais en guise de stimulant énergique, pour les frapper, et même d'une certaine manière pour leur donner mauvaise conscience. Un peu comme si notre Seigneur disait, si les méchants, dans leurs entreprises coupables, sont capables d'une si grande habileté pour obtenir un bien méprisable ou même une fin mauvaise, à plus forte raison, les justes devraient déployer une habileté et un zèle bien plus grand pour atteindre leur but, but qui lui est excellent, surnaturel, c'est le salut et la vie du ciel. Or, il faut bien reconnaître que souvent ce n'est pas le cas. La plupart des chrétiens, quand je dis la plupart, j'entends pas du tout poser une proportion quelconque, mais il faut bien reconnaître que l'on est plus tenté par la médiocrité, la facilité, que par la difficulté. Et donc, il est vrai que beaucoup de chrétiens se laissent un peu aller et n'exercent pas avec toute la volonté, l'ardeur voulue, la prudence qu'ils devraient déployer précisément pour obtenir le bien du ciel, le bien de la vie surnaturelle. Dans leurs affaires temporelles, qui elles aussi, toutes sont ordonnées au bien surnaturel, les chrétiens souvent montrent une timidité, une pusillanimité qui devrait leur faire honte. C'est ça que notre Seigneur veut nous dire. Alors pourquoi notre Seigneur agit-il ainsi? Eh bien parce que les conduites les plus blâmables ne sont pas sans leçon morale et méritent d'être examinées par ceux qui cherchent la vérité et la justice. Il ne faut pas vivre dans notre tour d'ivoire. Il y a des enseignements très précieux à prendre chez les ennemis de Dieu. La connaissance de l'ennemi, de ses tactiques, de son ardeur dans le mal, de sa prévoyance, de son intelligence dans l'action, regardez par exemple les communistes, de son habileté à trouver les moyens les plus efficaces pour réaliser ses mauvais desseins, eh bien tout cela mérite d'être étudié, médité par les fils de lumière. Non pas pour, bien sûr, imiter ou reproduire ce qu'il y a de mauvais dans ces exemples, c'est clair, mais pour s'inspirer de ce qui s'y trouve d'admirable, et qui devrait nous faire honte. Admirable, le mot est précisément le mot qu'emploie notre Seigneur. Le maître a loua, admira l'économe infidèle de ce qu'il avait agi habilement. Il a été impressionné et il a trouvé finalement que cet homme pouvait nous donner des leçons. Et c'est ça que notre Seigneur veut nous dire. Ne devrions-nous pas avoir une volonté et une prévoyance au moins égales à celle des méchants dans le combat que Dieu nous commande de mener pour l'établissement de son règne, pour la défense de ses intérêts? Vous savez que Saint Pie X, à la suite du cardinal Pie, adressait un reproche analogue aux chrétiens lorsqu'il disait « La principale force des méchants, c'est la faiblesse des bons. Si les bons n'étaient pas si faibles, les méchants ne l'emporteraient pas. C'est le bien qui l'emporterait. » Alors donc, le thème de la parabole, la pointe, comme on dit, c'est le terme technique qu'on emploie, la pointe de la parabole, est indiquée précisément par le mot « prudenter », ce mot qui revient deux fois dans le récit. Cette parabole, c'est une leçon sur la prudence. Qu'est-ce que c'est que la prudence? Eh bien, la prudence, c'est l'heureuse adaptation des moyens choisis à la fin poursuivie. Elle consiste à prévoir l'avenir et à choisir les moyens adéquats pour parvenir à ses fins. L'homme prudent, c'est celui qui sait trouver et mettre en œuvre les meilleurs moyens pour obtenir la fin qu'il poursuit. Alors évidemment, pour que ce soit une vertu, il faut que la fin soit bonne. Mais la prudence porte sur le choix des moyens, choisir les bons moyens. Or, c'est exactement de cela dont il s'agit ici. Cet homme prévaricateur se montre extrêmement habile pour retourner la situation en sa faveur. Pourtant, c'était mal parti pour lui, il était renvoyé. Eh bien, il parvient à ses fins. Et c'est cela et cela seul que son maître admire. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi habilement. Prudenter, dit le latin. Car les enfants de ce siècle, ajoute notre Seigneur, sont dans leur monde, dans leurs affaires, avec leurs proches, plus habiles que les enfants de lumière. Et c'est fort regrettable. Les enfants de lumière, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui veulent vivre justement, doivent donc se montrer plus prudents, plus avisés, lorsqu'ils agissent pour le bien, que ne le sont les enfants du siècle dans leurs entreprises temporelles et souvent mauvaises, comme c'est le cas ici. Voilà, c'est ça la leçon enseignée par cette parabole. Alors regardons, si vous le voulez, un peu plus en détail le récit, parce qu'il va justement nous apporter des lumières très importantes sur la prudence. La prudence, c'est ainsi que les philosophes ou les théologiens l'expliquent, a trois actes. L'homme prudent, c'est celui qui d'abord délibère. Si on ne délibère pas, on n'est pas prudent. On se précipite tout de suite dans l'action, sans réfléchir. C'est de la précipitation. C'est un des premiers vices contre la prudence. Mais il suffit pas de délibérer. Il ne suffit pas de passer en revue tous les choix qui s'offrent à nous, tous les moyens qui s'offrent à nous. Il faut encore après trancher. Il faut juger quel est le meilleur moyen, le plus adéquat, au vu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. C'est ce qu'on appelle le jugement. C'est le deuxième acte de la vertu de prudence. Et c'est très important. Ça ne sert à rien d'avoir délibéré pendant des heures si on ne tranche pas. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui voient clair, qui analysent bien, qui ont des tas de bonnes intentions. Mais ça reste des velléitaires, parce qu'ils ne tranchent jamais. Et puis, il ne suffit pas de trancher dans sa tête. Il faut encore passer à l'acte ensuite. Et c'est le troisième acte de la prudence, et c'est le plus important, c'est celui qu'on appelle le commandement. L'homme prudent, c'est celui qui, après avoir bien délibéré, bien jugé, passe à l'acte, commande, agit. Parce que là encore, ça ne servira absolument à rien d'avoir fait tout ce qu'il fallait précédemment, si de fait on n'agit jamais. Et c'est pour ça que la prudence, c'est la vertu du chef. C'est une vertu qui vaut pour chacun d'entre nous. Il faut dans notre vie personnelle accomplir ces trois actes, il faut être prudent, mais a fortiori quand on a des responsabilités. Alors regardez le récit. Ces trois étapes sont parfaitement bien distinguées. D'abord, le récit nous présente les personnages et puis l'action, donc cet intendant dissipateur qui est dénoncé, et le maître le convoque, le somme de rendre compte de sa gestion, et puis il le renvoie. Une phrase suffit pour poser ainsi la situation. Et puis ensuite, la parabole fait parler tout haut, fait penser tout haut cet homme, cet entendant malhonnête. Il délibère en lui-même d'abord. La délibération, je viens de vous le dire, l'examen de tous les moyens possibles, c'est précisément le premier acte de la vertu de prudence. « Que ferai-je » demande-t-il. Il réfléchit et il passe en revue les divers moyens qui s'offrent à lui. Alors il faut lui reconnaître qu'il a d'abord envisagé des moyens honnêtes. Travailler la terre, mendier, c'était des moyens honnêtes. Mais travailler la terre, il n'en a pas le courage. Mendier, ce serait une déchéance humiliante après avoir occupé un poste si important. Alors il écarte ses moyens et il va trouver le moyen qui lui convient, le moyen qui lui paraît le plus adapté, qui va lui permettre de se sortir du mauvais pas dans lequel il s'est mis. « Je sais ce que je ferai ». Voilà le deuxième acte de la prudence. Il tranche, il sait, il choisit. « Je sais ce que je ferai afin que lorsque j'aurai été écarté de la gérance, les gens me reçoivent dans leur maison. » Les gens, c'est-à-dire tous ces gens qu'il va transformer en obligés. Il va se créer des obligés. C'est le jugement, le deuxième acte de la vertu de prudence. Il arrête son choix. Et il ne se contente pas de délibérer et de trancher, il va ensuite passer à l'acte. Ayant donc fait appeler tous les débiteurs de son maître, donc vous voyez qu'il agit, il passe à l'acte, il dit à chacun, assieds-toi, prends ton billet, écris. C'est très précis, c'est le commandement, la mise en œuvre, le troisième acte de la vertu de prudence, le plus important, parce que, encore une fois, si l'on ne passe pas aux actes, tout ce qui précède est vain, inutile. Alors comment fait-il? Comme son affaire est peu honnête, il va la régler en tête à tête. Il appelle chacun des débiteurs, l'un après l'autre. Tous ces débiteurs ont acheté à crédit, et donc ils ont laissé entre les mains de l'intendant une reconnaissance de dette. Donc le calcul consiste à modifier cette reconnaissance de dette dans un sens qui soit favorable aux gens qui ont des dettes, à ces débiteurs. À chacun, l'intendant ne fait pas une remise identique d'ailleurs. Il est très habile, il s'adapte aux personnes et aux circonstances. C'est une nouvelle preuve de son habileté, de sa prudence. Le premier doit 100 barils d'huile. C'est considérable, ça fait à peu près 4000 litres d'huile. Et là, cet homme, il lui fait écrire sur son billet 50. Donc il lui remet la moitié de la somme. C'est considérable. Le second doit 100 sacs de blé, c'est-à-dire à peu près 400 hectolitres de blé. Et dans le nouveau billet qu'il fait écrire à cet homme, il lui remet le cinquième de sa dette. Tu vas écrire 80 au lieu de 100. Et l'intendant escroc n'a rien à craindre, parce qu'en demandant à chacun des débiteurs de son maître de falsifier son billet de sa propre main, il s'en est fait des complices. Donc ce n'est pas eux qui vont le dénoncer. Ils ont tout avantage, au contraire, à se taire. Il peut compter sur leur discrétion. Vous voyez comme c'est habile, mais c'est profondément malhonnête. C'est du vol. Alors la conclusion, la parabole coupe court, elle se contente d'une petite phrase. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi habilement. Parce que c'est ça le message que notre Seigneur veut nous faire passer. La louange ne porte pas sur l'acte accompli par l'économe infidèle, parce que cet acte est coupable, il est répréhensible. C'est du vol, mais sur le mode avec lequel l'économe a agi. Il a fait preuve d'une prudence exemplaire. Alors il faut noter que si la parabole nous montre de manière très éloquente l'importance de la prudence et de toutes ses phases, néanmoins, comme ici le but est un but mauvais, c'est du vol, le but est un mal, on ne peut pas dire que l'homme a agi de manière vertueuse. Pour qu'il y ait vertu, il faut que le but qu'on se propose soit bon, sinon il n'y a pas de vertu. Il peut y avoir beaucoup d'habileté, mais ce n'est pas vraiment la vraie prudence. La vraie prudence, la vertu de prudence, nécessiterait qu'on agisse pour le bien. Mais il reste tout de même que la manière dont cet homme a agi est pour nous pleine de leçons, pleine d'enseignements. Il faudrait que dans nos œuvres bonnes, dans notre poursuite du bien, du ciel, de la vie surnaturelle, et même dans toutes les œuvres très concrètes, très terre-à-terre, que nous sommes amenés à conduire jour après jour, et qui ont toutes pour but de nous rendre plus chrétiens et de nous conduire au ciel, nous agissions avec une telle habileté, avec une telle prévoyance, avec un tel zèle, avec une telle prudence. On pourrait dire que la parabole s'arrête là. Tout est dit. Pourtant, notre Seigneur ne s'en tient pas là. Il va ajouter un petit élément. Puisque l'exemple qu'il a pris porte sur les richesses, il va en tirer une application qui porte elle aussi sur les richesses. L'intendant malhonnête a usé des richesses pour le mal. Eh bien vous, dit notre Seigneur, vous devez en user pour le bien de vos âmes. Et c'est tout à fait dans la ligne de ce qui vient d'être dit. Et comment allez-vous faire ? Au moyen de l'aumône. L'aumône, c'est le bon moyen, le moyen chrétien qu'il faut retenir quand il s'agit des richesses. Parce que les richesses, c'est dangereux. En soi, ce n'est pas un mal d'être riche. Ce qui est un mal, c'est d'en user mal ou de s'y attacher d'une manière déréglée. Alors l'aumône permet de corriger cela. Et non seulement de le corriger, mais d'obtenir des biens qui, eux, seront surnaturels, des mérites. Et donc, au bout du compte, c'est tout à notre avantage. Et c'est ce que dit notre Seigneur. « Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité. » Les richesses d'iniquité, c'est une allusion évidente au récit qui vient d'être donné, à ce qui précède. Mais les commentateurs pensent qu'il faut l'entendre plus largement ici. Les richesses d'iniquité, dans le contexte présent, les mammona iniquitatis, ne désignent pas uniquement les mauvaises richesses, les biens mal acquis, mais toutes les richesses temporelles qui, par l'attrait qu'elles font naître, sont source ou occasion d'iniquité, non pas inique en elles-mêmes, mais souvent source d'iniquité. Et c'est vrai que dans la vie d'ici-bas, le bien des, les richesses, les biens matériels, sont très significatifs de notre vie temporelle, de tout ce qui regarde l'ordre temporel. Alors c'est pour ça que cet exemple est un exemple qui a valeur d'exemple, justement. En faisant l'aumône de ces richesses, continue notre Seigneur, lorsqu'elles viendront à manquer ces richesses, c'est-à-dire lorsque vous serez mort, que vous n'aurez plus rien, on n'emporte pas ces richesses dans son cercueil. Alors les pauvres, ce que notre Seigneur appelle ici vos amis, tous ceux à qui vous aurez fait du bien par vos aumônes, eh bien ceux-là vous recevront dans les tabernacles éternels, c'est-à-dire qu'ils intercéderont pour le salut de vos âmes. Vous serez bien contents ce jour-là d'avoir fait l'aumône, parce que vous aurez beaucoup d'amis au ciel qui prieront pour vous et qui vous permettront vous aussi de gagner le ciel. Ainsi, il n'y a aucune ambiguïté. Vous voyez que s'il restait quelques doutes sur la nature de l'éloge, les voilà tous dissipés. Pour un chrétien, la grande, l'unique réalité, c'est celle du salut éternel. Et c'est en fonction de cette perspective que tout doit être défini, y compris les richesses temporelles. Par l'aumône, le chrétien transforme ses richesses temporelles, matérielles, en richesses d'éternité, en mérite et en biens surnaturels. Et vous voyez que l'antithèse est parfaite entre l'intendant infidèle et les fils de ce siècle d'une part et les fils de lumière d'autre part. Simplement, ce qui nous est demandé, c'est d'avoir un zèle au moins égal, au moins équivalent, parce que nous, nous travaillons pour la vérité, pour le bien, pour le salut de nos âmes. Les uns et les autres, les bons comme les mauvais, doivent être prévoyants, prudents, mais les mauvais ne le sont qu'en vertu de leur bonheur terrestre, et pour y parvenir, ils n'hésitent pas à agir avec malhonnêteté, tandis que les seconds, les bons, ne sont, eux, prudents qu'en vue de leur bonheur éternel. Alors cette petite parabole, vous voyez, jette vraiment sur la vie terrestre et sur tous les actes de notre vie terrestre la lumière de Dieu. Nous agissons dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et notre Seigneur nous montre comment nous devons user selon Dieu de toutes ces réalités terrestres, et spécialement de cette réalité si équivoque qu'est l'argent, dont la plupart se servent malhonnêtement pour leur malheur. Voilà, bah demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide à bien comprendre le sens de cette parabole et surtout ensuite à bien mettre en pratique tous les enseignements que nous devons en tirer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.